We're going to start this afternoon with two talks talking about actually non-circulation as well as circulation. And we're starting right off with Wilco Versteeg, who is preparing a PhD in American on contemporary war photography in the American History Department at Université Paris Diderot under the supervision of François Brunier. He's mostly interested in the ways in which images today are still able to document war, including virtual warfare. He works, for instance, on the use of social media by Ukrainian forces, the use of digitally embellished images, and contemporary war photo books. He is a regular contributor to Aperture, as well as various other publications in Dutch and Belgian. He's also a photographer. Welcome.
Thank you very much for your introduction. Is this thing working? Yes. I have to start with a couple of apologies. First of all, I caught a call the other day, so if you cannot hear me, if I seem to be in a bubble, it's because I actually am living in a bubble. Second of all, the title of my presentation, The Boom and the Bang, War Porn, Censorship and Circulation, might be a bit misleading. In order to prevent any complaints or reclamations after the fact, this talk will not be concerned with this kind of war porn, be it, how can we call it, reperforming the Abu Ghraib scandal, things like that. It will be concerned with war photography and its contemporary dynamics of circulation, non-circulation, or delayed circulation. Because it wouldn't be the first time that someone steps into a, let's say, a Baltus exhibition or an exhibition on 19th century photography with other extra artistic expectations in mind. So I just want to prevent the people that came here for actual war porn. You may leave, you may want to stay. Before I will talk on actual, and my third apology in fact will be, I have to show you horrible images. And there's no other way around this. And they're really going to be horrible, but you will see. Before I come to this point in my presentation, I will circumambulate the battlefields of northern France before going to talk about a book called War Porn, a book provocatively titled by Christoph Bangert, a German war photographer, that is, for me, closely linked to Weimar cultural photography. But first, let's go back a bit. Images, as we well know, circulate. Images, there's a rather large tradition of daguerreotypes, stereoscopy, photo books, famous photo book, and postcards, all connected to war. Images also make people circulate. And a clear example in case is F. Scott Fitzgerald's war novel, Tenderest the Night. Dick Diver and his friends tour the former battlefields of World War I, and in chapter 13 we read, Dick turned the corner of the traverse and continued along the trench, walking on the duckboard. He came to a periscope, looked through it a moment, then he got up the step and peered over the parapet. He went on along the trench and found the others waiting for him in the next traverse. He was full of excitement and he wanted to communicate it to them, to make them understand about this. Though actually Abe North had seen battle service and he had not. The fact that Dick Diver did not experience battle himself does not frustrate his attempts to impress his entourage with the knowledge of the Battle of the Somme. He explains that this land here cost 20 lives a foot that summer. She looked out, Rosemary in this case, obediently at the rather bare green plain with its low trees of 6-year growth. Their visit to the neatly restored trenches constitute a peculiar tourism. Touring the former battlefields of a war that just finished is at once an act of voyeurism, as maybe all tourism is, and a rather naive quest for the authentic, as perhaps all tourism is too. They are not in search of historical truth, nor of a mystical relationship with the past, but they are in search of themselves, their own sentimentalized emotions that come to stand in between them and their environment. Amiens, where they find themselves after their tour, becomes an echoing purple town still set with the war, as some railroad stations were. Inventing their own Amiens, their own Somme, They board the train to Paris. Here, the practicalities of the trip become clear. And I'm quoting, "They ate sandwiches and drank wine. Nicole was abstracted, biting her lip restlessly and reading over the guidebooks to the battlefields that Dick had brought along. Indeed, he had made a quick study of the whole affair, simplifying it always until it bore a faint resemblance to one of his own parties." Guidebooks, as used by Dick, mainly published by Michelin and Les Chemins de Fer, were a huge commercial success and were printed in large quantities. Published as early as 1917 and 1918, these books were aimed at those who could afford a car, take time off to travel the former battlefields, and venture on disaster tourism, perhaps an early war form of war pornography. These guidebooks were heavily illustrated, with photos often showing a city and or a town before and after battle. Here's an example of that, and it would include practical advice of the kind, take a left turn at the house that is now destroyed, go to the church without a belfry, etc., etc. These guides apparently helped still a hunger for proximity to war without being in actual danger, a need to witness what has already passed. War photography in general, and maybe documentary photography at large, has effects not unsimilar, unlike these guidebooks. It too stills a hunger for proximity to disaster without putting oneself in imminent physical danger. It too provides an armchair witnessing to the horrors of the world. War photography moves people emotionally, ethically, aesthetically, and physically, in the case of F. Scott Fitzgerald's book. However, this is a rather traditional view of the powers of war photography, too heavily founded on a zenith of documentary photography from, let's say, the end of the 1920s until the end of the 1960s, early 70s. Today, dominant modes of war photography seem to have lost this ability to speak to our humanity. The digitization of photography and the virtualization of warfare led to the paradoxical situation in which we potentially can see more images from more diverse sources than ever before. Every couple of seconds, more photos are taken than in the entire 19th century, for example. However, this overflow of images makes that we cannot see the forest from the trees. The telling lack of iconic war photographs since the Vietnam War is a case in point. Here's an example of the is used by Gunther, as well as by many other people, to show. I forgot what this artwork is called, but something like 5,000 sunsets. It can be found on Flickr. It's made by an artist. The image is the alpha and the omega of the possibility to critically interact with the world. Without dabbling in theology for too long, we have come here for war and destruction and not really for our salvation today. Religious and philosophical experiences of the mysteries of existence, the inconceivability of suffering and death, and of citizenship as an active engagement with the world beyond our limited field of vision or action, cannot do without images. The images is entangled with the metaphysical fundamentals of Western thought. Our paradoxical relationship with the image is grounded in this discourse that is strongly influenced by Christianity. And as an example, an image of Christ. Christianity is the religion of incarnation, in which the Word was made flesh and thus image. In other words, Christianity is the religion of presence. At the same time, it is the religion of the empty tomb, as Michel de Certeau described it, of mysterious absence and thus of the need to fill an empty space with images. Our tradition is on the one hand defined by a necessary love of the image, and on the other hand a necessary need to destroy every false image to safeguard reality against misleading forces. We here touch on a very double duty, the duty to create images and the duty to destroy. And this ever-shifting dynamic between iconophilia and iconoclasm is very interesting. Susan Sontag is an example of what we could call iconoclasm. She famously sees the history of photography as a struggle, and I'm quoting, the struggle between two different imperatives, beautification and truth-telling. She perceives that the risk of being confronted with photographs of suffering is that the photographed image of suffering does not necessarily, and I'm quoting again, necessarily strengthen conscience and the ability to be compassionate. It can also corrupt them. Once one has seen such images, images of horror, one has started down the road of seeing more and more. While Sontag, but also her students, Barbie Zelitzer and Susan Muller, seem to be working in a line of thought invested with iconoclasm, what is a good image and what is not, they do not have the tendency to censor. Iconoclasm takes place on the reception side and might finally lead to the non-production of images. Censorship, on the other hand, is invested with the distribution or with the non-circulation of images. Despite an environment that is said to be saturated with images, we massively look away from images and photography, and photography has more and more trouble capturing our attention. This leads to a pessimism and a disbelief in the political and societal potency of the image to force change or to change political change or change within ourselves. This pessimism, paradoxically, goes hand in hand with the call for more images of pain and suffering taken at closer range and more authentic than previous images. Professional photographers are familiar with this paradox and are constantly searching for methods to represent human death and dying. War, then and now, produces a heap of mutilated flesh, but it is a law that the more technological wars become, the cleaner and distance its representations become. The tortured and dead body slowly disappears to the margins of representation. I'd propose to see the history of war photography as the history of the gradual progression of the material and thus limited circulation of images to a dematerialized and thus potentially unlimited circulation of images. But the potentially unlimited circulation is not always an actual unlimited circulation. Censorship, be it from commercial, institutional, or personal motives, still plays a large role in the non-circulation of images today. This history is thus tightly linked with technological innovation of the means of production, distribution, and reception. What is more, the history of war photography is also the history of the gradual appearance and then disappearance of the human body from the image, especially if we take today's dominant representations of warfare interested mostly in armory, in drone and image satellites. A very quick overview of this gradual appearance and disappearance of the human body. However, there remain photographers, magazines and publishers who dare to grant the dead human body the place it deserves, center stage. One example is War Porn by Christoph Bangert. Its inclusion of images of horror and its focus on mechanisms of censorship make this work very fruitful in today's discussion. Christoph Bangert poses anew the questions of the potency of photographic images that is at risk of being lost if she continues to fail to grant humans their rightful place in representations of warfare. In a shocking but refreshing book, War Porn, Bangert subjects himself and his profession to a critical analysis. Why have the photos in this book never been published before, he asks himself. War Porn, and I'm quoting, is a book about the duty to look, however unpleasant this might turn out to be. War Porn opens with a short introduction in which the photographer recounts his engagement and anger that is at the root of the publication of this book in 2014. He writes that you were not supposed to see these images. No one was. Many I don't recall ever having taken, as if someone had pushed an erase button in my head. Yet, I am the one who took all these pictures. I know it. While Bangert seems to be estranged from his own work, the compilation of War Porn made him aware of what he photographed before. Beauty was obviously, as you will see, not a selection criteria for the images that ended up in the book. And I'm quoting, "These are not my best pictures. I have beautiful, dramatic, well-composed pictures from war and disaster zones. Landscapes, portraits, details, the boom and the bang. But this book is not about the drama of war or the phony myth of the heroic war photographer. I'm just trying to start a conversation about how we deal with or don't deal with images of horrific events. It's an experiment. What happens if I switch my self-censorship mechanism off?" Besides this visual and interactive reflection on self-censorship, Bangert's family history adds another layer to war porn. His grandfather was a dedicated Nazi serving as a doctor on the Eastern Front. He must have seen unimaginable horror but decided to never talk about it or to denounce his Nazism. The only thing, Bangert writes, his grandfather talked about were his horses that he loved dearly. Not taking up the ethical responsibility to tell war stories, the grandfather failed in his grandson's eyes. Now, Bangert feels he is burdened with the responsibility to witness. And I'm quoting, "Ultimately, this book is my insurance policy for the day that my grandchildren ask me what wars and disasters are like. I won't talk about horses. I will have to pull this old book from the shelf and say, this is what it was like for me. This is what I remember. Look." Bangert presents war porn as an experiment with himself, with his own conventions and reactions when faced with images of horror. He positions himself in this discussion by publishing images that transgress what we usually get to see in dominant media. He claims that what we do not get to see is much worse than what we do get to see. War porn is a book on self-censorship more than anything else, and thus a book on the non-circulation of images. Bangert explains, "We all self-censor. I do. Picture editors do. The usual refrain being, unfortunately, this goes beyond what we can publish. And you do too. Our brains try to protect us by perceiving us, preventing us from looking. We are afraid that we might be afraid. We worry that the act of looking could be morally wrong, exploitative, even voyeuristic." This self-censorship is often wrongly confused with piety or respect, and sounds like a good, honorable thing at first. Self-censorship can be extremely dangerous, not only on a collective, but also on a personal level. If we don't allow ourselves to look at horrific images, how will we be able to remember events comprehensively? We have to find the courage to look, Bangert says. We have to remember, because if we don't, these events did not take place. His book tries to engage with the mechanisms of censorship of the readers, so of us too. War porn is an interactive book. What you see in this book, Bangert says, is my personal experience, and in a way, it is yours too, because these things happened in your lifetime. You, as a viewer, are complicit. You're the one who bears the greatest responsibility, because you have the power to make a conscious decision about what you want to see. There are pages in this book that are closed. You can easily open them with a knife or letter opener. It's up to you. Deciding if you want to self-censor or not is an active thing. Sometimes you might even have to force yourself, he writes. The play with this mechanism of the reader is not aimed at shocking the reader. The images between pages that have not yet been cut open are not necessarily more shocking than other images in war porn. Sometimes they show this the same scene from a different angle, for instance, as in this case. Sometimes we get to see a meal. However, if you get to see a meal like this in between these images of horror, this meal might remind you of a dead body anyway. More than anything, war porn confronts people with the fear of being afraid. Bangert confronts the reader with his unwillingness to see. The invitation Bangert extends to his audience to cut open pages or not, if they want, if they feel ready, I cannot grant you. You are, unwillingly perhaps, confronted with these images. The reader must get a knife to cut open the pages and fear the unexpected. You here are witnessing the images in a more passive way. When an article of mine about war porn was published in the Journal of the Photo Museum Antwerp, the editors wanted to preserve this playfulness, this game, and decided to print some pictures in negative. So it was published like this, only by using your phone's negative inversion. So you had to take a picture of the page, put it through negative inversion on your phone, so it would render a positive image. Would the true horror be shown? Bangert sees the possible unwillingness to cut open the pages as misplaced respect towards the victims of violence, or as a fear of being a voyeur. He takes this fear seriously, though, because he knows it as a photographer. Is he exploiting these people, or is he an objective war photographer doing his job? This paralyzing question must torture many war photographers. Bangert picks the fertile way out by admitting what cannot be denied. I believe it is impossible to avoid dehumanizing elements in horrific images entirely, just as it is impossible to avoid the exploitation of the subject dilemma, at least to a certain extent, he writes. Of course photographers exploit their subjects. Of course it's war porn. For Bangert, his professional and personal ethics depend on the publication of war porn. He writes, I am a photographer. I feel I have an obligation to publish my images. If I don't, I have failed. I'm not claiming to be morally superior to say to the young soldier or rebels that I spend time with. And it does not matter to me what you call what I do. Call it war porn, if you like. Faced with skeptical approaches to war photography in general, and his images in particular, Bangert must repress his anger. As a seasoned photographer who has seen many wars and crises, Bangert has difficulty accepting the complacency of some audiences and does not accept the logical fallacy that an image is worse than reality. And I'm quoting, but people who tell me that they can't look at my pictures make me angry, too. I'm a polite person. I always say, oh, no problem. I understand. It's a dilemma. But that's a lie. Deep inside, I'm screaming at the top of my lung, you can't look at my pictures? Well, try harder. You soft first world whiners. Wake up. Those are real people. If you cannot stomach it, get the hell off this planet. You have to look at it. In an interview with James Astrin for the New York Times Lens blog, Bangert states that, I'm not saying that you have to look at the photos, but you should at least have the opportunity to look at it. So it's really up to you to decide if you want to see this. Furthermore, he says, I believe that it's not enough to only take these images. You also have to make sure you can publish them in some way. Otherwise, maybe you shouldn't take them in the first place. He continues, we should not just blame the media for not showing us how wars really are. That's too easy. That's too simple. We should ask ourselves as viewers, what do we need? What do we actually have an obligation to look at? We have great responsibilities as consumers and viewers of images, and we should never forget about this obligation. Of course, his position as a photographer and our position as viewers are privileged and superior. We are safe, we are still alive, we are still looking, still able to look. Looking serves as a humbling experience towards what is seen. Anger, fear, and compassion should triumph over compassion fatigue and pessimism. Bangert wants to wake us up out of our passive, distant position and to formulate a new "This is war." The famous thing Kappa wanted of his pictures. He wanted every picture, every image of war he took to say, "This is war." Bangert seems to formulate a new "This is war" for our time. He seems to do justice to the duty to create images, to do justice to the incarnated lives we live. He animates the empty tomb of our imagination with horror, death, and doom, with humans and their inseparable bodies. In short, with the power to sublimate the here and now and to point at the viewer and ask, and now what? War porn, in many ways, is a highly unpleasant book. A corpse eaten by dogs, dead children, and you already saw this, bodies turned the color of beautiful autumn leaves. The viewer is not spared much, or is she? She is spared everything but the act of looking. Bangert states that the pictures indeed are horrible, but what is at stake is not fiction, but reality, what really happened and how it was seen by a witness. This is not spectacle or fiction that was made for our entertainment, but a decomposing reality that shows our downfall and our human reality. But, Bangert states, why should we need to look if we already know how horrible reality actually is, how horrible these pictures are? I'm quoting Bangert. But are we really aware of how horrible they are? Yes. Why are we so shocked by these pictures then? The reality of the human body, in whatever state, is central to war porn. The word porn points to the centrality of the body, although it is here applied to a practice that is anything but pornographic. War porn contains many pictures of dead and wounded half-naked children, for instance. Making the use of the word porn even more piercing and problematic. The taboo of children and sex leads to a tension that is unresolved, a tension that is also much bigger than when showing adults in a similar way. While sex and children is problematic, death and children is equally so. Various images in war porn have a religious quality to them. A blood-stained sheet recalls the Holy Shroud, for instance, while possible connections to Christian imagery are never far away when suffering and dead people are shown. Banger does not criticize these familiar tropes. As a photographer, he places himself in a humanistic tradition rather than in a borderline artistic postmodern critique on the constructed nature of images. Bangert's photography does not aim to refer to religious imagery and does not try to be iconic. Rather, he seems to say it is the other way around. Like war photography, religious imagery is rooted in the reality of the human body. The strongest images in war porn work in a paradoxical way. They dehumanize the dead body, but in the same movement, they try to restore the body to its central place in representations of war. War porn can be said to be the 2.0 of the humanistic project of contemporary documentary photography. Take the images of the bound hands of an executed man, or the pictures of a dirty Iraqi morgue where heaps of dismembered and discolored flesh is spread out on the floor. And I have another one of these. The loneliness and the powerlessness and dirt of death in contemporary wars have seldom been represented like this, at least not in dominant media, mainstream media. In war porn, death is often extremely desolate, tied hands and feet, mutilated and bloated corpses on garbage dumps. In empty halls or in the morgue, death here is lonely. Not interested in the bang and the boom with technology and weaponry, Bangert shows just the body. Bangert openly tries to steer clear of iconicity so that his pictures can become the maimed icons of our age. These images seem to look at us, desire more of us than we can give. They confront us with a reality that is larger than our imagination, but unlike religious icons, there is no salvation in these images, nor communication with a higher being. Here, death is the end. It seems to be senseless. In war porn, the human body, even if dead or wounded, is resurrected, but not from an actual grave, but from the margins of visibility. It has come to dwell in, thanks to recent developments in warfare and its representations. Although the body is resurrected, it is resurrected discursively only. It is resurrected as dead body and brought to life, brought to meaning within the pages of this book. His images are in Olimi Tangre, so do not touch, and an Icheomo, so look at the man, at the same time. Because they are representations, they cannot be touched. Because they are representations, they must be seen, must be seen. Seeing is the only safeguard, this book seems to say, to the presence of this specific body at this specific place and the responsibility we'll bear to a larger community. By facing horror, unlike Bangert's grandfather, we are taking responsibility for our world. War porn is firmly rooted in a German tradition of war photography books. In its character, it is close to War Against War, Krieg dem Kriege, Friedrich's famous 1924 books, including a collection of horrible, horrific images. Friedrich, a pacifist, a conscientious objector, epitomizes for me Weimar photographic culture. His book was highly successful. It was translated into multiple languages. The first run sold out, of 70,000 sold out within months. And by 1930, the book has reached its 10th edition and was published in over 40 languages. Consisting of images taken from his private collection of military photographs, he mounted an exhibition from his home in Berlin before publishing them in book form. The book, whose publication coincided with the search in pacifist demonstrations commemorating the 10th year anniversary of the start of the war, so in 1924, is a collection of shocking photographs and other documents aimed at showing the horrors of war and aims to prevent future wars from happening in a climate that was rapidly becoming more militaristic. Friedrich's work is published to shock and to confront people with state and self-censorship. His juxtapositions are shocking to middle-class sensibilities and fight complacency by confrontation with representations of war that were not war, representations of war that were not seen before because they remained hidden in private or public archives. Friedrich created and curated his own archive of war imagery, including many censored photos, the provenance of some being unknown. By publishing, he fought censorship and tried to reach his pacifist goals by aiming for an emotional reaction to images of war that would lead to a renunciation of war based on physical repulsion to universal human suffering, quoting Appel. Krieg dem Krieg, so war against war, consists of intricate juxtapositions of optimistic, patriotic, and militaristic images captioned by official rhetoric and flowery phrases with shocking photographs showing the horror and atrocities of war captioned by his own iconic, ironic commentary. We're too far off to read, but there are some rather gruesome images. Krieg dem Krieg, in today's research, is mostly remembered for its images of mutilated faces and its representation of a raped woman. However important these images might be, the book consists of many other images depicting various facets of war, not all violent. Undeniably, it plays with mechanisms of censorship. However, the images do not speak for themselves. They are surrounded by text that ironically and smartly comment on the supposed content of the images. While hailed as an important visual work, War Against War is reliant on text as much as it is on images. War porn, for me, is part of a recent, what I call Weimar impulse in contemporary critical photo books. Photography and its political potential was a hotly debated subject across ideological and political fault lines in Weimar Germany. Many people, many now considered major voices in critical theory, participated in discussions on the uses and abuses of photography and photographic images. Walter Benjamin, Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht, and many others wrote extensively and wrote with each other about the role of photography to reshape society in an era of great political, technological, and societal upheaval. On the conservative side of the political spectrum, the great Ernst Jünger single-handedly established a tradition mixing the editing of various photo books with the critical practice of media criticism. Furthermore, on the creative side, of course, there's John Hartfield and his montages, and there's Bertolt Brecht's Kriegswirbel, War Primer, published somewhat late, but made during this period until the Second World War. The influence of the IEZ, Allgemeine Illustrierte Zeitung, of the well-connected Willy Münzberg that started printing halftones in 1925 and who issued a contest for photography as a weapon, should not be forgotten either. A superficial and debatable end to the era, so the Weimar era, in photography, came with the Family of Men exhibition curated by Steichen, who was in contact, who was from Weimar, was in contact with Brecht. So this traveling exhibition employed the methods out of Weimar, a heavily ideologized use of the image bordering on montage, but in this case fortifying a different ideology, a distinctly American capitalist ideology. The Weimar impulse can be seen today, for instance, besides in war porn, in Brecht's influences on Brunberg's and Schönerin's War Primer 2, taking Brecht's book as a basis and adding their own contemporary war pictures on them. This book now sells for over 3,000 euros or is available as a free PDF online. Jünger's influences on David Shields' War is Beautiful, the New York Times pictorial guide to the glamour of armed conflict, which is a heavy critique on how the war on terror was represented in the New York Times, which praises itself on being a very critical medium. All these latter works, and I don't have time to go into them in detail, albeit in diverse ways, are engaged with today's representations of war, with the fact that what we get to see is highly limited and seems to obscure in a way, perhaps unlike before, what is happening on the battlefield. Krieg dem Kriege and war porn have various points in common. Both are curated works published in a somewhat artistic, marginal context, the Anti-War Museum in Friedrich's case, a publisher of art books for Bangert. War porn, published in the center of the artistic world, is somewhat peripheral to the world of picture books of war photography as published by dominant publishers. War porn's reach is therefore more limited than War Against Wars. It is beautifully published and points to pregnant questions on censorship and responsibility to look. It also feels a niche created by the internet and its abundance of easily accessible war porn. It brings a selection of images of horror to an audience that is not necessarily attracted to this sorts of images. The difference between Krieg Dem Kriege and other works of the time and war porn is, however, not the fact that the former is overtly political, while war porn cannot said to be categorized as such, but that the focus has shifted from war itself to its representation, a tendency we see in other contemporary photo books too. While War Against War denounced war itself, Bangert criticized how it is represented. Bangert is modest about his goals. His aim is not to end wars, unlike Friedrich's. Well, I'm quoting, "That's not why I take these pictures, to end wars. It would be quite naive to think that pictures stop or prevent wars. People prevent wars. People stop wars. But also people look at images, so I think images can be one of the many factors that form opinions." Friedrich's generation lived in a militarizing society and in a Europe that went, more or less every generation, to war. Today's Occidental world has not known war for nearly three generations. The reality of war is foreign to us. While representation is a daily reality, the war photographer, who for Sontag is a peculiar tourist, has become the witness par excellence of wars fought elsewhere. No longer experiencing war ourselves, we have become engaged with this representation. They are taken as a key in coming to an understanding of reality. If only we saw more or less authentic images, if only we dared to look, we would know what is going on and eventually would stop waging wars altogether. That is often thought. War porn is an example, and I'm coming to my conclusion, is an example of a project trying to counter the main currents of war photography. In general terms, the human body is disappearing from war photography, from our representation, and thus from our imagination. More so, Bangert, in a serious but ludic way, shows the mechanisms of non-circulation in today's war photography. Censorship, self-censorship, but also the importance of engaged photographers who go to war zones, often carrying financial risk, not even to speak of the physical danger they face. Our visual culture is fragile, this book seems to say. It is dependent on individuals, on humans willing to witness in our place. In a way, they allow us to be our own dig divers, an armchair tourist to the disasters of the world. But this is not a position that one is to look down upon. It is a position that allows some form of enlightenment. Without war porn, the world would be a darker place. And I thank you very much.
Thank you. C'est juste pour pas être devant l'écran, du coup. Can you see the screen from where you are? Yes. Okay. Sorry. Maybe we should take questions now for Wilco. Does anyone want to? Yeah. Will.
Ask about the sort of two historical shifts that you used to frame your talk and ask about how important those really are to your argument, because it seemed to me that they were both kind of open to critique. The first was that there's a dematerialization of the image, but arguably any experience with an image is mediated,
yes,
right, through some kind of material. The second, though, what seems to me more problematic even than that, which is the idea that the body is disappearing. I'm wondering, you know, how much effort you're going to extend documenting that, or whether it's a perception that the body, whether the particular artists and people that you're working with are perceiving that, or whether you're really claiming that's true, because we could probably all think of recent examples.
I'm very happy with this question.
Sure.
I'm very happy with this question, because it's all based on a big paradox. I work on the invisibility of, let's say, the human body, but in order to point to the fact that the human body in some form is becoming more and more invisible in dominant representations of warfare. So I'm talking about representations in mainstream media, the New York Times, CNN, etc. I have to show that the body is visible elsewhere, in this case, in an artistic practice. You cannot work on invisibility as such, because it always has to be a visibility. The same for the material aspect. The moment you talk about the dematerial circulation of images, which we can, especially in today's online environments, I mean, if images are spread through Instagram or through Facebook, to me, they are dematerialized, even if I use a computer to see them. But as War Porn, the book, also shows, or any book, in this dematerialized culture, or in a culture where the image is becoming less and less material, there remain projects, important projects, that go back to this, not even go back, that take on a material form, because it's still, if things have to be visible, they have to be printed, because on the internet everything disappears easily, maybe. Am I answering your question?
I still have the same question, but I want to give other people a chance. No, you're articulating your take on it. Yeah, thank you.
In my research, I take a more practical approach, and I'm not trying to prove that the body is actually disappearing from representations of war altogether, although there is a movement towards a more sanitized, I have to go back too far, to a more sanitized representation of warfare than, for instance, take the Vietnam War, for instance, where we saw nearly everything on a daily basis in newspapers, whereas today, not so much. Also because wars become more invisible. Go to Waziristan, or think of Waziristan, what's happening there. We don't get to see images because simply there's no photographers. Even today in Syria, there are hardly any Western journalists, Western photographers, taking images there. So we stuck with other forms of images taken by citizens of whatever political position they take. So this is the paradox. This today's visual culture, to me, is highly paradoxical. We live in a world that is saturated with images. Possibly we get to see more, we have the possibility to see more and more. On the other hand, the production of our images is diversifying so much that we maybe cannot trust anymore what we get to see. So much this, it's all highly paradoxical, and this is a big difficulty in any research you do on the contemporary, definitely.
I think you bring out the paradoxes very well. I was just questioning the long-term historical.
Yeah, yeah, yeah. I see. So specifically, this gradual disappearance. Yeah, I see what you mean. It's an interesting point, but it's not highly crucial. Yes.
Yeah. Question about the critical point of view of these books, of these artistic projects. You refer to what you call the German tradition, which is actually everything what you showed us is very critical. There are political books.
Yeah.
And how... what is the point of view of this artist? Is there a critical point of view? Is there about war? Or is it just...
He wouldn't portray himself as an artist. He's a war photographer. So he would see himself as a witness. You're talking about Bangert.
Yes.
Yeah. As far as I know, and I don't know him personally, he's not politically engaged as such, but his book, in a way, is a highly politicized political book because it shows what he thinks is not shown elsewhere. And he finds
is there any text in the book?
Yes, there's text, but not a lot, two or three pages, and I read most of it here. And it's very...
Ah, okay, you were quoting from the book.
Yes, yes, yes.
Okay.
And thank from you. Interviews, but basically he says the same thing. He's an image maker, not a writer.
Mm.
And the only literary thing in this book, or political thing, is his reference to his Nazi past, or the Nazi past of his family. And he's not so much ashamed about that past, but about the fact that his grandfather did not talk about it and did not denounce what happened.
Okay.
So he wants to take on this responsibility of being honest of what war is like today to him, and to show it to us, because he feels that we don't get to see enough suffering.
But giving the title War Porn, isn't it a little bit ambiguous?
It's highly ambiguous.
Yes.
It gets people to buy the book, I guess, when they see it in a museum shop, or it confronts people
because
with their own.
Because in the 20s, when you were buying Ernst Friedrich Krieg den Kriege,
uh-huh.
There's no possibility to buy this book for any kind of contenting any curiosity about war. It was just a political book, and opening the pages, you saw all the political slogans and
yes, but
this
we
text
I agree.
Against war.
Yes, but we also got in Krieg am Kriege, we also saw horror pictures of horror that were not seen before, so this might have been its unique selling point as well, but published in a highly politicized context, more mm-hmm. so than war porn. But this entire title is a provocation to us, to our visual culture, mm. and to our own censorship. Why would I buy out in the open a book called War Porn? What would people think of me, and why would I talk about something called war porn? It's and especially when you get to see naked people or naked children, half naked. Why are we looking?
Mm.
Why are we looking? And the answer Bangert would give is, we have to look because it's reality.
Mm.
And then many other people, Sontag, for instance, would be more critical. Susan Crane would say, no, we shouldn't look at all. By looking, we perpetuate horror rather than stopping it. I'm on Bangert's side, but everyone has to decide his or her own standpoint mm-hmm. on this. But the act of looking or not looking is always a political act, and the act of showing or publishing is also political. But I'm not a political person myself, so I don't want to burden you with any responsibility. I hope you didn't feel I was lecturing. Yes.
Thank you.
This is an issue that we encountered in the book. The reason why we have this panel called Circulation and Non-Circulation is because decided early on in the construction of this book, and this was especially Joanne Mancini's contribution, and her chapter is on illustrated histories of the revolution, of the American Revolutionary War, and the way they show or don't show, or the way what they show evolves over time. And so the point was that talking about circulation entails the risk of losing sight of everything that doesn't circulate. Mm-hmm. But I'm wondering, so it's a very important issue, and but in framing that issue, one has to, I think, take into account a certain quantitative measure of circulation, even though we don't do any statistics in this book, that is at least implied. The kinds of texts that Joanne Mancini looks at are relatively popular illustrated histories of the American Revolution, for instance. In this case, and I think in both in the case of Krieg am Krieg and War Porn, we are, I think, dealing with counter histories or counter narratives that are taking aim precisely at a state of non-circulation. Right? I mean, is that? So in other words, they are in a sense situating themselves precisely in opposition to a certain historical condition where certain things are not being shown in a in a mass scale. Don't you think that the issue of the individual and the minority view versus the mainstream or majority or popular media is an important aspect of this discussion?
This is definitely an important aspect. Thank you for your comment and question. What frustrated Bangard, and he's a renowned war photographer working for New York Times, all kinds of other American publications, is that these photos, and I already told you he didn't select them because he finds them necessarily beautiful, but some are. This is a great picture. He wonders, why are these not published? So this dynamics between mainstream media and more marginal media or artistic practices is very important, definitely. And Bangard is certainly self-positioning him somewhat as a counter force. To say this is a counter history or counter narrative, I see what you...
I don't know. It's just,
okay. I see what you mean. But to me, the reality of these images is so central to what war is that I find it difficult to talk about counter. I would, when I'm confronted with a satellite image, I would see that as a counter visual history of warfare and not the actual dead people. But in today's media environment, or even in Friedrich's time, yes, there are counter narratives, political, yeah. As you okay. Perfectly
said. It was the same year, the very same year in which another book about the war was published with photos, kind of official mm-hmm. book, which was called Bilder des Weltkrieges, where you couldn't see any dead body. It was just kind of official propaganda about the memory of the First World War. Yeah. So Friedrich was actually perfectly right to say that.
Yeah, he came in a great moment. And even Jünger, who is pretty critical to his visual culture, he produced two books. Here is here, The Enemy Speaks and the Face of War, full of what we can safely call propagandistic pictures, even if they somewhat resemble how we would see the war in Iraq in the New York Times today. Mm. Distant, focused on soldiers helping children, parades, arms.
Maybe we can take two more questions.
Catherine Bernard, Paris Diderot. So follow up on Francois' question, Vilgo. Thank you very much for a great, great talk. My question has to do with the actual context of the publication of some of these photographs, uh-huh. because obviously part of the war porn paradigm has to do with the actual publishing context of these images, the way they're inserted mm-hmm. within the publishing material. So very often their cohabitation, they're extremely sort of shocking and very often painful cohabitation with other images that circulate and that belong to the sort of globalized idiom of images, fashion photography, mm-hmm. advertising, etc. And I was wondering if at any stage Bangard comments on this, on the fact that these images will have to cohabit with other globalized images, and that very often they might seem to be in conflict, and that somehow the war porn aspect of these images mm-hmm. has to do with this conflictual cohabitation.
Yeah. Bangard is not a theoretical person, so he doesn't mention this. Susan Sontag mentions this. She writes, I guess it's a non-photography, she writes, maybe if these images of war or any horror were not published beside advertisements, they wouldn't be so gruesome to look at, this juxtaposition. But Bangard doesn't go so far. No, he doesn't mention this. No, he doesn't. He's really a photographer, and the way he writes, it's very down to earth, very practical. So he doesn't. For me, war porn is a book that helps me think, or that helps forces people to think. But he doesn't do the thinking himself, not in this theoretical, critical way.
So the question of whether we need history or a longer version of this, I'd like to kind of return to, because there's not only a history about, say, the mediation of this, but also about warfare. Uh-huh. and its changing nature that I think is extremely relevant here, and there's a lot of assumption going on that I think we need to unpack. There's a changing nature of how wars are fought that I think shape what gets depicted. In other words, we've lost a kind of spectacular narrative military combat, which also included citizen soldiers. Mm-hmm. So that's why World War I, you know, looks a certain way, where whole towns fought together and there was a front, after all, which doesn't exist anymore. So in other words, there's a reason that you can have a certain kind of depiction of soldiers. You have no soldiers. There are plenty of pictures of soldiers in World War I and World War II. You're showing us only pictures of victims.
Yeah.
So, I mean, already, you're acting like war photography is the picture of victims of war. That is not what war photography has to be. And, of course, much of Kappa's, we all know, you know, the famous D-Day photos are of the débarquement, of, you know, being in the water with the soldiers, not with victims of war. So I think we need to rearticulate your assumptions that, you know, war photography is of suffering victims of war, first point. And second, we all know that, you know, the President of the United States saw a picture of a child suffering in Syria and, you know, dropped a drone or something. So in other words, it's not only that it's hidden, because in fact there are pictures every once in a while that are taken in some, you know, action, some emotional, you know, person can act, you know, when they feel like it. We also, of course, had the Situation Room, which is a very important photo of, again, a different kind of war. Mm-hmm. And last, I want to ask you also about, you're acting like there was a glorious day of freedom of taking pictures of war, but that also is not true. It was always, especially photographically, controlled. And so your access to the front was always controlled. And in fact, you know, the American army, the French army, the German army, the Russians were constantly burning films and photographs, you know, as you probably know, during World War II, as the Allies got closer, they burned almost everything they could as evidence. And as you also know, almost all the photographs and films that were taken during World War II were taken deliberately as evidence.
That's true.
Right? So, you know, and set up, and they were taught to take these photographs, not just for news, but later to be evidence in an international tribunal.
Yes.
To prosecute the Nazis, not just like to put in the newspaper. So I think we need to remember that there's a specific history of how war was photographed. And as I said, it isn't actually that long if you're looking at photography. Mm-hmm. We're not talking about Goya here in Callot. There's a different, longer history of drawing war. But, you know, so I think actually history does help, and I think is necessary, but I don't think that there's some, like, golden long, you know, age where everyone was free roaming, you know, the plains of war.
If thank you very much for your questions. If this golden era of war photography existed, it existed during the Vietnam War, which is said in historiography to be, the Vietnam War used to be the uncensored war. Soldiers had, or photographers had, more or less unlimited access to the battlefield. And this is around the same time where, because it is a independent media portraying a war during the Vietnam War, that we get to see victims, be it soldiers that are victims or the human population that is victimized in war. It's a very interesting point. Bangard's book also shows soldiers that are victims, and there are other projects showing dead American soldiers, for instance, which are absent as well from representations in dominant American media, as you know. War Primer 2, for instance, contains images of dead American soldiers. So it's not only the body of the victim that is disappearing, and I'm not at all in victim studies, it's also anybody, body of American soldiers that disappear too. I touched on the uncensored part, I touched on the bodies part, and there was a crucial second part to your question or your comment, which was the
publisher taken to service had evidence.
Yeah, they were definitely taken to serve as evidence. Today, too, there's many projects, Weitzel with his forensic architecture. And basically, this is the danger of any photo taken now. It could serve as evidence. I follow the Ukrainian battalion on Instagram for quite a bit. The moment they were integrated in the regular Ukrainian army, they deleted all their pictures from Instagram because they contained evidence of violence towards Russian-speaking population in the east of Ukraine. Whereas before, these images, the same images, spoke to an heroic deed of patriotism. So even unwittingly, these pictures still can serve as evidence. And I guess Bangert or any war photographer takes pictures to publish them, first of all, to show us how war is really like, however naive that might sound. But I guess he wouldn't mind his pictures being used as evidence later on. And I don't know. Then there's an interesting point about the battlefield. The battlefield doesn't exist anymore, except if you live in Mosul or in Raqqa at this moment, then the battlefield exists, and then soldiers still exist. So that's also a paradox. I also proclaim that war doesn't exist anymore as it used to exist on a physical battlefield, two parties fighting each other. But it does. It does. Only it becomes... yeah, no, definitely. I completely agree with that. Thank you very much.
Thank you. I think we're going to move on to the next talk and switch to French. We're going to listen to Christian Josker. Donc Christian a suivi une double formation en histoire de l'art et en études germaniques. Il a été au tout début de sa carrière l'assistant du professeur Hans Belting. Au Collège de France, il était maître de conférence à l'Université de Lyon 2. Cette année, il est à l'Université de Lausanne et il a reçu plusieurs fellowships de l'INHA, des instituts autrichiens. Il est également l'auteur d'un livre intitulé « Les yeux de la nation » sur la photographie amateur sous Guillaume II et sur d'un ouvrage sur la guerre de 14-18. Donc, vous n'allez pas nous parler de photographie de guerre aujourd'hui, mais bien de circulation, faire un petit point critique sur l'ouvrage. On vous écoute.
Merci beaucoup, Hélène. Merci à François, Ségolène, Constance. Merci à la Terra Foundation d'avoir organisé ces journées d'études et de m'avoir invité pour dire un petit mot. Alors, c'est vraiment une sorte de commentaire... Du livre dirigé par François Brunet que j'aimerais vous présenter maintenant et puis en terminant peut-être avec quelques questions. Donc voilà, c'est une contribution modeste à notre discussion. On reparlera peut-être dans le cours des questions que j'ai posées à François aussi de cette question de la non-circulation qui est aussi un des points importants du livre. Mais j'aimerais commencer par le titre de la préface de François qui a donné le titre à cette journée d'études, No Representation Without Circulation. Ce titre sonne évidemment comme une parole politique. François, tu l'as rappelé ce matin. On pense bien sûr au slogan No Taxation Without Representation, parole portée au moment de la Révolution américaine pour une meilleure représentation des Américains au Parlement britannique. Il en a toutefois, ce livre n'a pas la teneur revendicative, c'est plutôt un constat qui porte sur l'histoire des images, constat d'une condition nécessaire de la représentation visuelle. La circulation des images est une condition sine qua non de leur existence en tant qu'image, une loi en fait qui régit leur composition comme leur réception. Cette idée était, comme le rappelle François, à l'origine tant de l'école warburgienne de l'histoire de l'art que de l'iconologie panofskienne. Warburg était fasciné par la circulation des motifs. On connaît son intérêt pour la circulation des dessins, pour la médiation de la gestualité pathétique
et des différents médiums dans lesquels elle s'incarne, en particulier dans le théâtre. Le théâtre reprend les motifs gestuels de la peinture, qui transmet à son tour au dessin, qui transmet à la peinture, etc. Il y a une sorte de perpétuelle migration des motifs. Et on sait aussi que Warburg avait collectionné durant la Grande Guerre des images de propagande qui avaient profondément orienté ou marqué son travail sur Luther, sur les images de la Réforme. Plus tard, en 1926, il s'intéressa au timbre. Il a envisagé de faire une sorte d'histoire des styles, Stilgeschichte, des timbres postaux, des timbres. Fascination pour ces images qui migratrices, des images qui voyagent, des images qui prennent le train, qui prennent l'avion, qui traversent les frontières. Et lors d'une conférence, d'une rencontre, c'est pas une conférence, c'est une rencontre avec Gustav Stresemann, qui était un ami de la famille Warburg, qui avait été chancelier allemand en 1923 et qui a alors été ministre des Affaires étrangères et prix Nobel de la paix avec Aristide Briand. Warburg a dévoilé une esquisse de timbre-poste. Alors ça, c'est la collection des timbres de Warburg dans le Warburg Institute. Et il a dévoilé donc à Stresemann une esquisse qu'il imaginait pour un timbre pour la République de Weimar, en fait, dessiné vraiment pour la République encore, enfin, instable, comme on le sait, de Weimar. C'est une représentation d'un avion qui transporte des idées, Idea Winkit. Le motif a été ensuite dessiné par un artiste, mais il a jamais existé comme timbre poste. Autre motif de dissémination des images, la semeuse, qui tient, selon Warburg, à la fois de la déesse de la fertilité, de la ménade, de la nymphe. Alors, la question de la circulation avait été, chez Warburg, on le sait, à l'origine de sa méthodologie, en particulier de la notion de formule de pathos, puisque cette notion permettait de décrire un mouvement, à savoir la translation d'une racine visuelle créatrice d'émotions dans un contexte différent. C'est ce qu'il explique dans un texte. Alors, bon, je ne vais pas reprendre le dossier de l'histoire de cette formule, de cette expression, parce que c'est un peu, enfin, elle mêle des influences très variées, très diverses. Mais il y a un texte intéressant dans lequel il reprend, qui a été édité ensuite comme préface de son atlas Mnemosyne, dans lequel il définit la pathos formule en s'appuyant à l'origine sur une théorie grammaticale, donc linguistique, défendue par un néo-grammairien. À l'époque, c'était une école de linguistique allemande qui s'appelle Hermann Rosthoff, et qui porte sur le caractère supplétif des langues indo-européennes. L'idée, c'est que quand un adjectif passe du degré amélioratif au degré comparatif ou superlatif, il arrive que ce soit la racine qui change, la racine du mot, et non seulement un préfixe ou un suffixe qui s'ajoute à cette racine, comme par exemple bon, mieux, meilleur, gut, besser, besta. C'est la racine, donc le thème qui change, sans que, et je cite Warburg, la représentation de l'identité énergétique de la qualité ou de l'action décrite n'en souffre, l'introduction d'un mot de racine étrangère produisant une intensification de la signification originelle. Donc la translation des racines produit des effets d'intensification énergétique, selon Warburg. Et c'est à partir de cette idée qu'il dérive la notion de formule de pathos, de formule d'émotion, qui permet de décrire le changement de sens d'une forme selon son contexte d'utilisation, sans que, je répète, la qualité énergétique ne soit altérée. C'est là le principe donc de circulation des formules d'émotion, selon Warburg. Et Panofsky, de son côté, dans son livre sur l'humanisme que François a cité aussi dans son introduction en rappelant qu'il a été publié en 1930. Ah là, j'ai 39. Oui, c'est ça. 37. 39, hein, oui, c'est ça. L'année même, pardon pour cette hésitation, l'année même où a été publié l'article de Clément Greenberg qui, sur le kitsch et qui oriente les recherches de Greenberg vers le modernisme. Et donc, dans ce livre sur l'humanisme, eh bien, Panofsky considère l'œuvre d'art aussi comme une sorte d'accumulation de motifs dans un espace et dans l'espace et dans le temps, d'où, pour François Brunet, la nécessité de décrire ces processus de dissémination et de circulation. Alors, la tradition américaine a mis en place deux théories qui se sont dressées un peu comme des écrans devant notre compréhension des phénomènes de circulation des images. La première, c'est le modernisme. La deuxième, c'est le nativisme. Je reprends les arguments de François Brunet. Le modernisme, en tant qu'il décontextualise l'œuvre et qu'il proclame une autonomie qui est incompatible avec l'idée de circulation ou d'une diffusion sur différents supports des images de la modernité. La deuxième théorie étant le nativisme, en ce sens qu'il se focalise sur l'américanité de son objet d'étude, c'est-à-dire l'art, je cite, « sous l'influence des forces environnementales larges et puissantes ». Donc l'américanité, c'est cet art qui subit directement l'influence de la nature et non pas l'influence des artistes sur les artistes. Or, pour comprendre la signification des images, les œuvres d'art pour l'histoire et pour la politique, il est impératif de sortir de cette double impasse, à la fois du modernisme et de cette américanité recherchée dans le lien décontextualisé au paysage. Il faut, pour reprendre l'expression de Mitchell, étudier la vie des images, les processus de médiation et de remédiation des visibilités. Le contexte contemporain nous y conduit d'autant plus que nous observons quotidiennement la rapidité avec laquelle ces images automobiles, je reprends l'expression de Warburg, automobile et Bildfahrzeuge, passent d'un support à l'autre. Et il faut pour cela ne pas considérer la circulation non pas comme un phénomène périphérique, mais comme un phénomène inhérent à la production, parfois mise en abîme dans les images, rendue visible dans l'expression picturale. C'est l'argument de Jennifer Roberts dans son livre Transporting Visions, The Movement of Images in Early American, le texte de François Brunet cite Jennifer Roberts et fait de la question de la circulation une méthode. Et là, je cite la préface de François Brunet. « We propose to use circulation and non-circulation, on va y revenir, as a methodological concept that is apt, particularly in the American context, to supplement the more abstract notion of visibility and invisibility and to anchor the logic of representation and non-representation in a material history. » Le mot est prononcé, a material history. En effet, si l'iconographie panofskienne et la Bildwissenschaft warburgienne étaient ancrées autant dans les études littéraires que dans l'anthropologie, la nouvelle approche que défend le livre Circulation est attachée aux conditions matérielles de la circulation. Cette voie n'est certes pas nouvelle dans le champ de l'histoire des images, en particulier des images techniques. À la focalisation sur la seule valeur iconique devenue trop souvent objet de l'attention des historiens, elle répond en mettant en avant leur matérialité et les qualités techniques dont elles sont le produit. Dans un premier temps, les études visuelles avaient pu en effet donner l'impression de considérer en priorité ce qui, dans les images, était relève de l'immatériel, ce qui s'imprime dans la mémoire, ce qui a un rapport à l'imaginaire. Pour l'exprimer autrement, on pourrait parler d'une sorte de focalisation sur l'immatériel des images. Et à cette forme d'idéalisme, le tournant matériel de l'histoire des images, engagé depuis une vingtaine d'années, a voulu répondre en insistant sur et précisément les conditions matérielles de leur circulation. Il faut inscrire cette démarche dans un contexte historiographique dynamique, avec les travaux de Jennifer Roberts. Je pense aussi à Jason Hill sur l'histoire des transmissions des images photographiques par câble, les travaux de Thierry Gervais sur la presse illustrée, ceux d'Estelle Blaschke sur les agences photographiques, et plus récemment sur le microfilmage. Enfin, il y a aussi un colloque qui s'organise sur le thème de la circulation des images, des photographies à Leicester ce mois-ci, Photography Out of Bounds. Donc le contexte est évidemment riche en réflexions sur la circulation et sur les conditions matérielles de la circulation des images. Dans ce contexte, le livre Circulation manifeste sa spécificité par une hypothèse. Les effets, c'est l'hypothèse suivante, les effets de la circulation des images se mesurent à l'aune des effets de leur non-circulation. On met en quelque sorte en parallèle ou en balance les effets de la circulation des images et les effets de l'absence de circulation, des motifs qui précisément sont filtrés par les vecteurs de la circulation. La question du transfert négatif, en quelque sorte, ou de l'absence de transfert, avait d'ailleurs été problématisée dans les années 2000 autour des études sur les transferts culturels, quoiqu'il s'agissait alors principalement de textes et de traductions plutôt que d'images ou de supports matériels. Mais elle est ici réintroduite, cette question de la non-circulation. La non-circulation, c'est ce qui filtre, c'est ce qui fait barrage aux images, tantôt en arrêtant certains flux et tantôt en accélérant d'autres flux. Alors, sur ces sujets-là, un certain nombre de textes ont été réunis dans ce livre que je vais essayer d'évoquer rapidement avant d'ouvrir une discussion avec François, avec Hélène sur leur contribution à l'ouvrage et puis sur ces idées-là. D'abord, le texte de Joanne Mancini qui explore le phénomène de la circulation à l'image des exemples de la Révolution américaine. Deux ouvrages illustrés sont comparés. Enfin, elle parle surtout d'un ouvrage, celui de Nicolas Ponce et François Godefroy, recueil d'estampes sur les événements de la guerre publié en 1783-84, et qu'elle compare à un autre ouvrage de Lodge, publié un siècle plus tard, The Story of the Revolution. Et les images de Godefroy sont reprises en fait dans ce deuxième ouvrage, mais elles sont aussi filtrées. Il est beaucoup plus riche en images, mais décide de faire écran à une partie des images de Godefroy, tandis que Godefroy considérait la guerre d'indépendance comme une guerre entre puissances impériales. Et qu'il donnait à l'Espagne un rôle catalyseur, eh bien, l'ouvrage de Lodge, publié un siècle plus tard, donc, élude ces deux aspects, mais multiplie les images de la Révolution. Autre cas qu'elle analyse de transfert négatif, ou de différence assumée, c'est le traitement du supplice de John Malcolm. Chez Godefroy, on souligne la clémence de la foule, tandis que dans les gravures anglaises, les Bostoniens sont méchants et cruels. Et finalement, du côté américain, c'est un peu la dernière partie de son texte porte là-dessus. Les représentations glorieuses de la Révolution américaine produites aux États-Unis au cours du XIXe siècle reflètent moins les faits de violence physique plutôt que les épisodes d'iconoclasme qui permettent de minimiser la violence physique sans pour autant supprimer la figuration des actes symboliques de libération. C'est un peu le sujet aussi des recherches de Wendy Bellion qu'on avait eu la chance de recevoir ici dans le cadre du programme de la Terra Foundation. Ensuite, deux textes portant sur la presse illustrée et sur le cinéma. Je parlerai de ton texte juste après. J'ai un peu inversé le sommaire parce que je voulais regrouper les Thierry Gervais et Tom Gunning et sur les conditions matérielles et économiques de circulation des images. Le texte de Thierry Gervais explore l'évolution parallèle en Europe et aux États-Unis de l'introduction de la photographie dans la presse illustrée, dans le métier de la presse illustrée, d'abord sous la forme de l'illustration d'après photographie, donc la gravure d'après photographie, en particulier durant la guerre de sécession, où la mention d'après photographie est la marque d'authenticité. Ensuite, durant la guerre russo-japonaise, où les photographies sont publiées cette fois-ci non pas en gravure d'après photographie mais en similigravure, donc c'est un procédé photomécanique, et où se met en place déjà à ce moment-là une diffusion transnationale des images de presse avec par exemple les photographies de Jimmy Haar, photographe américain embarqué qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard comme photographe du premier conflit mondial. Et puis, troisième épisode qu'il explore, celui des années 30, au moment de la création de l'agence Black Star par trois immigrés allemands, Kurt Safransky, Ernst Mayr et Kurt Kornfeld. Thierry Gervais met en évidence la spécificité de la presse européenne. En particulier, d'abord le journal L'Illustration, notamment quand il s'agit de rythmer les pages et de trouver un moyen visuel pour pallier l'absence d'instantané des combats, en publiant par exemple une page avec 16 images montrant heure par heure le théâtre des opérations, comme si on trouvait dans cette façon rythmée de présenter la journée d'un escadron militaire, on palliait le fait que les photographies n'étaient pas prises directement au combat, mais on voulait quand même donner comme ça l'idée d'un rythme de le rythme haletant du front. In fine, c'est pour ce qui est des années 30, la troisième période étudiée par Thierry Gervais. C'est non plus le modèle français du journal L'Illustration qui domine dans les années 30, mais le savoir-faire allemand qui est réinvesti dans la presse américaine par le vecteur de ces immigrés, photographes, illustrateurs qui ont travaillé pour la presse illustrée allemande et qui réinvestissent leur savoir-faire aux États-Unis. Et finalement, l'article manifeste publié dans Life en 1937 sur l'essai photographique et le résultat final de ce transfert culturel. Avec l'article de Tom Gunning, on peut parler d'une invention européenne du cinéma américain. L'histoire qu'il décrit est celle d'un retournement qui commence avant la guerre et se prolonge dans les années 20 par l'adoption en Europe du cinéma américain. Ça commence ainsi. Après avoir pris l'avantage sur Méliès et les Frères Lumière, la maison Pathé s'impose aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale, comme le principal diffuseur de films dans des salles baptisées les Nickel Odeon, en raison de leur réputation de théâtre bon marché. Ces salles diffusaient des films européens, français principalement, mais l'émergence des producteurs et distributeurs américains contribua à affaiblir Pathé, en plus d'une guerre économique menée contre Pathé, qui avait été en fait associée au sein de Motion Picture Patent Company est finalement marginalisée. Cette dernière société de distribution américaine s'est lancée dans une campagne de critique fondée sur la dénonciation des mœurs libérales françaises, jugeant les thèmes des films parfois trop subversifs. Le paysage médiatique se reconfigure après la guerre. C'est l'argument de Tom Gunning. Pathé reprend l'avantage en termes de diffusion aux USA, décide d'abandonner la production de films et se concentre sur la diffusion européenne. Et c'est là, à ce moment-là, que le cinéma américain s'invente en quelque sorte par une sorte, enfin s'invente, se diffuse et se réinvente par l'effet de ce transfert culturel. En France, la génération de Louis Deluc, Germaine Dulac, René Clair ont créé le film impressionnisme peu commercial, tandis que le distributeur Pathé misait sur les films américains filtrés par le goût français. C'est le cas, par exemple, du goût de Pathé pour les films de Chaplin. On pense aussi à... à la réception de Cécile B. 2000. Cet engouement peut être compris comme de l'américanisme de la part des avant-gardes européennes, l'idée du cinéma mécanique et le cinéma américain en comparaison du cinéma français et du cinéma russe pré-révolutionnaire est beaucoup plus orienté sur la mécanique rythmée que sur le théâtre filmé. Ce fait est central pour le cinéma soviétique, par exemple, c'est son dernier argument. Plusieurs chercheurs, notamment Yuri Tsivian, ont montré que le film américain avait influencé le film soviétique, soulignant la prédisposition des Russes au formalisme américain, étant eux-mêmes issus d'une école formalisme, le constructivisme. Ils ont en quelque sorte adopté certains traits du cinéma américain. Alors j'en viens à l'article d'Hélène Valence qui traite de l'effet des circulations transatlantiques sur la constitution d'une icône de l'art américain, à savoir le tableau de James McNeill Whistler, arrangement en gris et noir numéro 1, portrait de la mère de l'artiste, peint en octobre 1871. Elle souligne, Hélène Valence, le paradoxe d'un peintre élitiste et marginal dont la critique soulignait à l'époque que, si je me souviens bien, la critique que tu cites, c'est le seul défaut dont il est dépourvu, c'est d'être populaire, et qui accède au statut de peintre le plus populaire par l'engouement du public pour ce portrait. Le portrait est peint à Chelsea en 1871. Le tableau est envoyé aux États-Unis pour être vendu, exposé en 1981 à la Pennsylvania Academy of Fine Arts. Finalement, il revient en Europe et sera acquis par l'État français pour le musée du Luxembourg en 1891. Paradoxalement, c'est avec l'acquisition de cette peinture que ce tableau devient une icône de l'art américain. Et cette réputation a été d'ailleurs ensuite augmentée dans les années 30 par une tournée organisée en 1934 par Alfred Barr, qui a donné lieu à ce timbre-poste à cette occasion. La consécration comme icône de l'art américain est passée, nous dit Hélène Valence, par une transformation du discours. D'abord orientée vers un éloge de l'art pour l'art chez Whistler, une sorte d'élitisme détaché des symboles populaires, la critique insiste, à partir du début du XXe siècle, sur le thème de la maternité et de la pureté, le rattachant par ce biais à l'histoire nationale. On souligne la piété de la mère pour minimiser en quelque sorte les commentaires formalistes sur le tableau. C'est donc une double transformation que cette circulation fait opérer à ce tableau, le devenir américain de cette œuvre, premièrement, et le discours symbolique sur le motif, deuxièmement. Enfin, le texte de Frank Mehring analyse la construction transatlantique d'une iconographie et d'un style du New Negro à Harlem dans les années 20. Il est un des effets, enfin un des effets les saillants de ce style étant le découpage des silhouettes. Il parle à propos de la naissance de cet art, qui d'ailleurs accompagne les premiers courants d'émancipation afro-américain, d'un pictorial cluster in European art and cinema, d'une sorte d'écheveau d'influence qui sont exercées sur l'artiste Aaron Douglas, qui a contribué de façon décisive à la culture moderniste américaine par ses affiches, en particulier ses illustrations d'ouvrages et ses peintures murales. Or, il rappelle Frank Mehring dans son article, en fait, l'émergence de cet art de la silhouette et des différentes influences auxquelles il a été soumis, en particulier d'abord l'origine un peu de l'art de la silhouette en Europe au XIXe siècle. Ensuite, la tradition folklorique des Scherenschnitte, les découpages allemands, du folklore allemand, transmis par son ami Willold Reiss, lui-même allemand immigré aux États-Unis, formé à l'Académie de Munich. Il note aussi, dans ce contexte des avant-gardes new-yorkaises, l'influence expressionniste de la peinture. On pense à l'expressionnisme tardif de Franz Mazerel, par exemple. Du cinéma, évidemment, les jeux d'ombre de Murnau, et comme d'un certain primitivisme avec des références à l'Égypte ancienne ou aux figures grecques. L'ombre, c'est aussi pour Douglas une manière de rappeler le souvenir tragique des lynchages. Il est lui-même issu du Kansas et a connu cette réalité. Sorte d'évocation morbide qui plane sur les fêtes du blues new-yorkais. Donc il y a des tableaux ou des illustrations qui figurent des scènes de fêtes dans des cabarets à New York et en même temps superposent par des effets de gamme de gris, de grisaille, des images de cordes de pendus et des ombres inquiétantes, des mains qui viennent manger le bord du tableau. Donc il y a à la fois la joie et la fête qui est représentée avec en superposition ce rappel inquiétant des lynchages qu'il a connu au Kansas. En définitive, c'est la fin de son article. Les silhouettes de Kara Walker trouvent leur origine dans cet écheveau d'influence, ce croisement de cultures populaires européennes importées dans les avant-gardes américaines. Donc, voilà un peu, disons, les thématiques de ces. De cet ouvrage. Maintenant, je pense que le plus utile pour comprendre, c'est de discuter de cet ouvrage. J'ai plusieurs questions à poser à François et à Hélène sur les orientations méthodologiques de l'ouvrage. La première question porte évidemment sur la question de l'histoire matérielle, parce que j'ai souligné, François, tu as peut-être tu peux venir. Tu as rappelé dans ton introduction cette coïncidence, enfin on ne sait pas si c'est une coïncidence ou c'est un fait de l'histoire, qu'en 1939, Panofsky publie son livre sur l'humanisme, qui est vraiment une sorte d'application de la méthode de l'analyse de la circulation, des motifs, de l'analyse de ces circulations, et en même temps, Clément Greenberg prend congé finalement de toute analyse iconographique dans son article sur le kitsch, renvoyant tous les effets de la circulation au mauvais goût et finalement l'art digne d'être étudié par l'historien d'art n'est plus pour lui que ce qui ce qui arrive à s'abstraire de ce contexte précisément de la circulation qu'il renvoie à la culture populaire. Et donc, ma question, elle ne porte pas vraiment là-dessus, mais il y a évidemment la circulation, la question des circulations, elle est complètement centrale dans toute la tradition iconographique. Mais évidemment, il ne s'agit pas de ça dans le livre que tu as dirigé. Il s'agit d'abord de réintroduire la matérialité des vecteurs de circulation, c'est-à-dire comment les images circulent, l'organisation économique de la diffusion des images, les supports différents sur lesquels elles prennent forme, et deuxièmement les caractéristiques. Enfin, tu parles aussi d'une histoire non visuelle de la circulation des images, c'est-à-dire que c'est pas un retour à l'iconographie clairement et à l'histoire des motifs que j'ai rappelé tout à l'heure en parlant de Panofsky, surtout de Warburg, mais c'est plutôt un ancrage dans une histoire matérielle ou un matérialisme historique, on pourrait presque dire, que tu proposes ici. Alors, est-ce que c'est ce que tu voulais faire ?
Non, mais merci beaucoup, Christian, pour ce résumé et cette question qui est effectivement très importante. Je vais essayer de répondre rapidement. D'abord, j'ai utilisé cette opposition entre Greenberg et Panofsky parce que c'est extrêmement frappant à cause de la contiguïté chronologique et géographique de deux textes qui sortent de New York, qui sont écrits à New York au même moment. C'est très frappant parce que chez Greenberg, le mouvement même, la notion même de mobilité de l'œuvre d'art, enfin de l'image, est entièrement versée du côté du kitsch. C'est-à-dire que ce qui bouge, c'est le kitsch. L'art ne bouge pas. L'art est dans une, et n'existe véritablement dans sa forme, dans sa forme pure, dans une rencontre qui se situe au niveau spirituel. Entre une œuvre et un spectateur. Alors que Panofsky, dans son étude des thèmes humanistes de la Renaissance, fait, comme j'essaye de le rappeler rapidement, quelque chose qui, à bien des égards, est une cartographie, une géographie de la migration, évolution d'un certain nombre de motifs, effectivement. Mais donc c'est très frappant parce que même si Panofsky n'utilise absolument pas le terme ni la notion même de circulation, néanmoins c'est quand même très fortement de migration qu'il s'agit. Et d'ailleurs, on sait que Panofsky a fait ce travail sur la base d'un repérage extrêmement minutieux avec des photographies, puisque ça ne pouvait pas se faire autrement, de peintures, de fresques dans un grand nombre d'églises d'Europe centrale et du Nord, notamment. Donc c'est vraiment une cartographie. Pour autant, effectivement, dans la tradition de Warburg, ce que Panofsky étudie, c'est la migration de ce que tu as très justement appelé des motifs. Et les motifs ne sont pas, je crois que c'est assez clair, les motifs ne sont pas des entités matérielles. Les formules de pathos de Warburg ne sont pas des objets matériels, ce sont des formes. Bon, pour aller vite. Donc on est dans un univers qui est certes très ancré matériellement, et je crois que dans toutes ces traditions de l'iconographie, c'est incontestable que la question du support et la question des techniques, la question des médiums, etc., est extrêmement importante. Et en même temps, ce qui est l'objet de l'étude, ce n'est pas des conditions, des objets matériels, ce sont bien des figures, des figurations, des mutations, des métamorphoses de figures et de motifs. Donc Le propos qui est tenu dans le livre se voudrait, même si le livre n'accomplit ce propos que de façon très très imparfaite et partielle, se voudrait en tout cas animé par effectivement une démarche plus matérielle, plus matérialiste, que je pense en particulier le chapitre de Thierry Gervais sur la presse illustrée avance particulièrement bien, parce que justement il y est question de technique et de conditions matérielles de la production des illustrations. Et que à d'autres égards certains autres chapitres du livre traitent moins, par exemple le chapitre de Joanne Mancini sur les histoires illustrées parle relativement peu, elle pourrait parler plus de l'évolution entre 1783 et le livre de Ponce et Godefroy et 1892 et le livre de Cabot Lodge, de l'évolution des techniques d'illustration imprimée. Bon, c'est de fait, le livre ne le fait que très imparfaitement. Mais quand même, il y a derrière ça l'idée très importante que jusqu'à un certain point, pour parler de circulation aujourd'hui, il faut accepter effectivement une dissociation de cette question de la circulation du point de vue iconographique. Et c'est un petit peu l'objet de la discussion avec le texte de Jennifer Roberts. Puisque dans le texte de Jennifer Roberts analyse la peinture Boy with Flying Squirrel, très célèbre tableau de John Copley, pour montrer de façon absolument virtuose, et c'est un texte absolument formidable, qui est très connu maintenant, comment ce tableau de Copley, qui était peint à Boston, destiné à être montré dans une exposition, un salon, enfin une exposition à Londres, est entièrement tendu par une sorte d'anticipation de ce que Jennifer appelle le transit, c'est-à-dire le transport du tableau, et le fait qu'il va d'abord traverser l'océan, qu'il va passer un certain nombre de mois en route, qu'il risque d'être abîmé, qu'il risque d'être perdu, et que quand il arrivera à Londres pour être exposé là-bas, il devra, d'une certaine façon, représenter non seulement son origine américaine, mais aussi tout cet éloignement, toute cette complexité du transport, etc. Donc Jennifer Roberts montre de façon, encore une fois, extrêmement virtuose comment l'iconographie du tableau, le verre d'eau posé sur la table, les ailes de cet écureuil volant qui sont elles-mêmes comparées par Jennifer Roberts à une sorte de métonymie de la toile enroulée la toile du tableau enroulée pour le transport. Et au-delà de ces éléments métonymiques précis, tout ce qu'elle appelle un espace d'interprétation empiriste, qui est à l'image de l'unité culturelle anglo-américaine, enfin atlantique, dans laquelle participe ce tableau. Bon, tout ça donc pour en quelque sorte montrer que la logique de la circulation, du transport plutôt. Les impératifs, les contraintes et la signification du transport sont complètement thématisés iconographiquement dans le tableau. Ce qui me semble, jusqu'à un certain point, revenir très paradoxalement à un point de vue greenbergien, puisque c'est quelque part remettre au centre du propos une sorte d'autonomie absolue du tableau par rapport à tout son environnement matériel, économique, historique, etc. Donc c'est pour ça que c'est à partir de cette discussion-là que je dis que je souhaite faire avancer une approche que j'appelle tentatively epictorial, non visuelle, de la circulation, et que pour remettre en avant le type de fait dont parle par exemple effectivement Joanne, mais aussi bien Thierry ou Tom Gunning, quand Tom Gunning parle des conditions de production et de circulation des films et du cinéma, une structuration économique qui est très importante et qui n'a pas à être, qui ne peut pas à la limite être l'objet de la figuration. Donc voilà, c'est ça le sens de cette pétition, mais je dois reconnaître le premier que ça reste évidemment à l'échelle de ce petit livre une pétition.
Oui, mais voilà. Oui, merci beaucoup. Alors j'ai d'autres questions encore, mais Hélène a peut-être envie de répondre aussi à ça, et puis je pense qu'on peut également ouvrir la discussion à tous.
Moi, je vais pas insister dans le même sens. C'est vrai que juste une petite chose, effectivement, moi j'avais été très frappée sur le cas de Whistler, à quel point, d'une certaine manière, l'aventure de ce tableau correspondait aussi assez bien à cette dichotomie entre le modèle greenbergien et sa, la dénaturation en fait de l'œuvre par le kitsch en fait. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement on a très peu de temps, donc on peut peut-être continuer et recevoir vos questions aussi ou vos commentaires. Oui.
C'est pour l'enregistrement vers le... Il faut appuyer sur le bouton. Non, au milieu. Voilà. Plus fort.
Oui, donc de ramener cette démarche autre quand même de l'histoire de l'art matériel telle que Jennifer Roberts l'exemplifie. Je comprends où tu veux aller en la comparant avec cette idée d'autonomie de l'œuvre, mais il y a quand même une différence cruciale qui est que cette nouvelle histoire matérielle met l'accent sur le agency de l'objet qui est cruciale. Donc l'œuvre travaille en elle-même, en rapport avec les conditions dans lesquelles elle circule, etc. Mais il y a un pouvoir qui n'est pas uniquement iconographique pour Jennifer Roberts et pour beaucoup de chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là et qui se joue sur le niveau de l'affect ou des éléments spécifiquement matériels, etc. Donc tu la remets dans une tradition purement visuelle quelque part qui a la tradition iconographique et tu réduis beaucoup la dimension anthropologique matérielle et aussi ce refus du régime purement visuel.
Oui, enfin, on ne va peut-être pas entrer dans une polémique avec Jennifer Roberts qui n'est pas là, mais c'est vraiment pour les besoins de la démonstration, parce que, et en plus, ça ne concerne que. Cet argument-là porte vraiment surtout sur le chapitre Copley's Cargo, enfin, sur le chapitre sur le tableau de Copley, parce que les autres chapitres du livre de Jennifer Roberts sur Audubon et Mount. Sont beaucoup, beaucoup plus du côté, beaucoup plus largement du côté d'une histoire économique et sociale des images que dans cette perspective plus étroitement réflexive qui est celle du premier chapitre. Par ailleurs, c'est absolument vrai que Jennifer et beaucoup d'autres effectivement insistent sur la notion de agency ou de incomplete subjectivity, comme elle le dit en reprenant Mitchell notamment, des objets. Je répondrai simplement que, disons que c'est une perspective que le livre n'explore là aussi pas vraiment assez, encore que le chapitre de Frank Mehring sur les silhouettes va, je crois, pas mal dans ce sens-là, puisque Christian n'a pas tout à fait fini l'histoire. La fin de l'histoire des silhouettes, c'est que c'est les iPod ads et le fait que les silhouettes qui étaient devenues noires sont redevenues blanches. Enfin, elles sont devenues une image blanche des noirs ou une image noire pour les blancs. Ou pour une sorte de mainstream global qui est... Donc, il y a un éloignement par rapport à toute logique, je dirais, qui serait une logique de création artistique dans aucun sens précis. Cela dit, je ne voudrais pas prolonger la conversation, mais je pense que cette notion de agency Ça serait peut-être un sujet pour un futur volume de la collection Terra, parce que je pense qu'elle demanderait à elle seule un travail beaucoup plus approfondi. C'est une notion extrêmement complexe, extrêmement vague, utilisée souvent de façon très vague. Et je suis pas convaincu, en tout cas, qu'après avoir travaillé sur circulation, que la notion de circulation gagne beaucoup à être reformulée en termes de agency. Encore une fois, c'est clair que le livre ne remplit qu'une petite partie du programme qu'il aurait pu ou dû remplir, parce que c'était son format, et que donc c'est forcément très 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 fragmentaire. Mais il y a quand même quelque chose qui, je crois, qui est assez parlant, c'est que on travaille quand même, on a gardé l'idée de travailler quand même essentiellement sur un certain nombre de médiums différents, la peinture, la photographie, le cinéma, la gravure, et ainsi par là de garder cette relation assez forte à une matérialité des supports en particulier. Encore une fois, à un moment où, dans un contexte, celui de la culture numérique, où cette question des supports et de la matérialité des images a tendance à devenir une sorte de rêve du passé. Je suis bien sûr, il y a des choses, il y a encore du travail. Oui.
Alors, moi, je voudrais bien poser. Je ne sais pas combien de temps il nous reste pour la discussion.
Oui, quelques minutes.
Quelques minutes. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions sur la question, sur l'aspect histoire matérielle, je voudrais. Non ? Donc, je voudrais aussi aborder et revenir finalement au sujet de notre session, qui est la question de la non-circulation. Parce que ça, c'est une idée que tu avances dans ton introduction et qui est reprise en particulier par l'article de Joan Mancini et qui est intéressante et qui est stimulante. En même temps, c'est pas vraiment comment on peut circonscrire, définir un effet de circulation absente ou négative ou... Et alors, comment tu as imaginé ce concept, enfin, je ne sais pas si on peut parler de concept, mais de cette idée qu'on puisse étudier aussi des effets de non-circulation, c'est-à-dire que certaines images, précisément, ne passent pas un certain nombre de frontières, alors que d'autres, oui. Est-ce que, finalement, la non-circulation n'est pas simplement le moyen de mesurer les effets de circulation, tout simplement.
Oui, en partie, c'est ça. Enfin, en tout cas, il faut mesurer l'un contre l'autre et ne pas oublier de le faire. Même si c'est virtuel, même si c'est théorique, c'est très important parce que la logique de la circulation, c'est comme la logique du capital, elle attrape tout. C'est-à-dire que si on reste dans une appréciation une appréciation notamment optimiste, je dirais un peu téléologique de la circulation, qui est un peu celle de la culture numérique, à savoir que tout circule, et inversement aussi que quand même certaines choses circulent plus que d'autres, c'est celle qui arrive en tête de liste quand on fait une Google search. Donc cette idée qu'en fait que toutes les entités, les signes culturels se mesurent à leur degré de circulation. Cette logique-là, on le sait particulièrement bien justement dans la culture de l'internet. C'est aussi de là que ça vient cette idée de non-circulation. Elle est fondée sur une hiérarchie des occurrences, une hiérarchie des fréquentations, une hiérarchie des hits ou des circulations, et il y a quelque chose qui est en bas de la hiérarchie et qui ne circule pas, ou qui circule très très peu. C'est, je pense, un premier point. Le deuxième point, c'est que Joan Mancini, dans son texte sur America's Dark Matter, utilise le terme de uncirculation et pas de non-circulation. Et uncirculation, ça veut dire, pour Johan, ça veut dire willful non-circulation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est proche de ce que Vilko appelle la censure. C'est-à-dire que c'est le fait que c'est pas simplement qu'il y ait des choses qui circulent moins que d'autres, c'est que il y a des choses qui ne circulent pas parce que on les a retirées ou parce que elles ont été occultées. Alors là aussi, c'est en partie quelque chose qui reste une virtualité dans le livre, c'est quand même une sorte de mesure d'hygiène au moins théorique, de penser toujours à la non-circulation et on pourrait dire la décirculation, mais aussi à la circulation retardée. Hein. On en a parlé un petit peu avec Vilko tout à l'heure aussi. On pourrait, dans le cadre
texte d'Hélène Valence, il porte sur une circulation retardée, c'est-à-dire sur un tableau qui se met à circuler à partir du moment où il est acquis.
Il est mis hors
de la circulation, voilà, c'est ça, 1891, c'est ça.
Oui, exactement. Donc, il y a effectivement ce phénomène. Enfin, de toute façon, ce parcours de tableau est paradoxal en permanence. Mais effectivement, il y a cette reprise qui est inattendue et qui continue en fait aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure. Ce chapitre, je décris comment ce tableau est détourné pour devenir une icône de la maternité, y compris par des institutions culturelles, c'est-à-dire que le Chicago Art Institute a utilisé ce tableau récemment là pour la fête des mères, en fait. Il y a aussi un phénomène de participation. Je pense que ça sera intéressant aussi de l'évoquer peut-être demain, des institutions culturelles elles-mêmes dans cette nécessité absolue de participer, ce grand jeu de la circulation, en fait, c'est-à-dire qu'il faut en permanence mettre les œuvres en circulation, quitte à transiger un peu sur ce qu'on concevrait ou ce qu'on aurait conçu il y a quelque temps comme le travail d'un conservateur scientifique, etc. Donc il y a aussi ce paradoxe là. Ouais. Voilà.
C'est passionnant.
Bon, Philippe.
Oui, je ne ferai pas semblant d'habiller ça en question. C'est plutôt la poursuite des remarques précédentes. Mais il me semble que, enfin, par rapport à ce que disait François en particulier, que l'important, c'est peut-être de mettre circulation au pluriel, parce que justement, il me semble que l'idée de circulation et peut-être l'intérêt, y compris par rapport à agency, enfin bon, tout ça, l'intérêt de la notion, c'est qu'on ne peut pas penser de circulation sans des circuits où les choses et où les personnes circulent. Et donc... étudier la circulation, c'est étudier les circuits et étudier des passages entre les circuits. Par exemple, sur le tableau de Whistler, c'est à partir du moment où le tableau s'arrête que les timbres poste circulent, etc. Donc, une certaine forme devient immobile, enfin, en tout cas statique, relativement statique, et puis d'autres formes se mettent en place. Mais du coup... C'est le point aussi par rapport à cette notion de circulation, c'est que et ta critique d'Internet, enfin de l'idée d'une sorte de circulation globale me semble aller complètement dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est pas une question purement quantitative, c'est que quand un tableau devient un timbre-poste, il y a quand même un changement de matérialité assez important, et quand il devient aussi une image accessible sur un écran Internet. Là, je range de dire que l'idée de dématérialisation me fait ricaner à chaque fois. Une image sur un écran, c'est une différente forme de matérialité, mais c'est quand même très, très matériel. Ou alors, ça n'est pas très matériel, mais à ce moment-là, le Ecce Homo allemand, peinture sur bois, est dans une certaine mesure immatériel, c'est une image. Voilà, si on a un rapport avec lui qui est différent. Donc, enfin, il me semble que c'est important d'insister sur cette pluralité et aussi sur le fait que, enfin, si je puis te paraphraser, pas de circulation sans circuit.
Non, mais absolument, sur les trois choses. Alors, d'abord, les titres de la collection TA Research Essays sont au singulier. Donc, ça, c'est pas. Mais cela dit, tu verras que la notion est abordée constamment au pluriel et dans la multiplicité de ses acceptions, qui fait en même temps sa faiblesse. Hein. C'est une notion, encore une fois, très, très. Très, très, très vague quelque part, parce que évidemment c'est pas seulement la circulation spatiale ou géographique, c'est la circulation à travers les époques, un peu comme chez Panofsky, c'est la circulation intermédiale, c'est etc. Absolument circulation au pluriel, circulation et circuit absolument aussi, c'est dans une des versions d'étape de l'introduction qui a été ensuite réduite parce que c'était trop, ça devenait trop long. J'avais fait tout un développement sur McLuhan qui me paraît encore aujourd'hui un modèle extrêmement puissant pour penser beaucoup de choses, et justement le fait qu'il n'y a jamais un seul média ou médium, il y a toujours une multiplicité de médias qui s'insèrent les uns dans les autres et interagissent, et en même temps n'ont pas les mêmes domaines d'extension, etc. Et puis sur la matérialité, alors là, vaste débat, mais disons que c'est vrai que les images sur écran soient matérielles, je suis absolument d'accord. Qu'elle soit utilisée et environnée par un discours sur la dématérialisation, ça n'en est pas moins évident. Et que donc, et alors après, la question de la dématérialisation, et c'est celle que peut-être on en reparlera demain, c'est de savoir jusqu'à quel point, comme tu le suggérais avec le Ecce Homo, jusqu'à quel point la culture numérique ne nous incite pas à repenser. Au contraire complet de Hans Belting, quelque part, toute l'histoire des images du côté de l'immatériel ou de la dématérialisation, plutôt que du côté des objets et des pratiques. Voilà. C'est-à-dire comme s'il y avait une. Je ne dis pas que c'est mon choix, mais c'est l'une des tentations, en quelque sorte, qui sont proposées par la culture numérique.
Peut-être s'arrêter là. Oui. Je vous remercie beaucoup. On va prendre une petite pause.
Courte pause.
Voilà. Et puis on se retrouve. Alors du coup,
on va prendre 10 minutes.
D'ici 10 minutes. Merci. Merci Christian.